Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa maliwe.
Bonjour, bonjour. Auditrices et auditeurs de Radio Galère, aujourd'hui émission Livres et Amis du mercredi 5 avril 2023, veille du 6 avril, notre 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et les projets ultralibéraux du gouvernement Borne-Macron. Même en dehors des journées nationales, restons mobilisés, restons actifs. À Marseille, par exemple, jusqu'à vendredi, le printemps du film engagé, à la Casa Consola, au Vidéodrome, à la Baleine.
Et au puis, Gyptis.
Au Gyptis, c'est fini. C'était le week-end dernier. Donc là, jusqu'à vendredi prochain, c'est-à-dire c'est ce soir à la Casa Consola, demain au Vidéodrome et après-demain à la Baleine. Et puis, il continue à y avoir en ville un certain nombre de projections militantes. Pour alimenter les caisses de grève, puisque dans ces cas-là, les réalisateurs libèrent les droits des films et les prix payés à l'entrée vont aux caisses de grève. Donc informez-vous, Printemps Film Engagé, Solidaire, autres syndicats, plein de choses qui se passent cette semaine et le week-end prochain. Alors, continuons le combat, en effet, et à Livres et Amis, continuons la lecture de la vie de Emma Goldman, activiste anarchiste américaine et européenne, activiste anarchiste et communiste ensuite d'ailleurs, en bagarre permanente contre le système capitaliste. La semaine dernière, nous avons lu la longue présentation de la pièce de théâtre de Howard Zinn, en suivant Emma. Cette semaine, nous allons essayer de suivre Emma, en effet, au fil de ses activités militantes. Edward Zinn, vous vous en souvenez, c'est cet historien, écrivain qui, à travers l'histoire populaire des États-Unis, a amené en pleine lumière, ou ramené en pleine lumière, des militants engagés dans le combat pour les travailleurs, pour les pauvres, mais militants bien oubliés de l'histoire officielle. Et c'est évidemment l'exemple de Emma Goldman. On vous avait raconté la semaine dernière qu'elle avait été très active au début du XXe siècle, qu'elle était un peu tombée dans les oubliettes de l'histoire et que c'était les activistes des années 70 contre le Vietnam et autres qui avaient commencé à reparler d'elle. Donc aujourd'hui, on lit des extraits du texte de la pièce de Howard Zinn qui a effectivement été jouée aux États-Unis dans les années 70. Et ce texte, autant vous le dire, ça va pas être facile parce que nous sommes trois au micro aujourd'hui. Il y a Nadine, il y a Françoise, il y a Dominique, il y a Camille à la technique. Mais enfin, nous sommes trois devant les micros pour faire revivre une dizaine de personnages. Et comme nous n'avons pas voulu faire beaucoup de photocopies, pour des raisons économiques et écologiques, bien sûr, et ben entre les lectures, il va falloir de temps en temps qu'on se passe le bouquin, qu'on change de place. Enfin, ça va être très rigolo dans le studio. Et vous aurez des blancs de temps en temps. Donc, désolé pour les blancs quand nous passerons le livre ou quand nous changerons de place. Soyez patients et tolérants vis-à-vis de notre petite pratique un petit peu biscornue. Voilà. Alors, au début de la pièce, Emma Goldman est encore une toute jeune fille immigrée qui vit chez ses parents dans une petite ville de l'État dans l'État de New York. Au nord de l'État de New York, je crois qu'elle est à Rochester avec ses parents. Donc, elle travaille comme ouvrière, couturière. Donc, elle est dans un atelier, dans une petite usine textile. Et la pièce commence par une scène, précisément dans un atelier de couture, où sont regroupées un certain nombre de jeunes ouvrières. Ces jeunes ouvrières racontent un incendie dans lequel d'autres ouvrières du textile sont mortes brûlées vives parce que les portes de secours de l'atelier étaient fermées de l'extérieur. Donc, ce que raconte Emma à propos de cet atelier, c'est qu'il se passe, après le récit de la tragédie, de l'incendie et de la mort d'autres ouvrières, il se passe une espèce de rébellion en douceur. C'est-à-dire que chaque ouvrière s'affirme vis-à-vis du contremaître. Elle refuse de faire plus d'heures, elle refuse de travailler davantage et à la fin, chaque ouvrière refuse même de travailler tant que le contremaître n'a pas rouvert les portes de sécurité. Donc chacune s'affirme individuellement et puis le groupe s'affirme collectivement. Et c'est ce groupe collectif des ouvrières qui obtient donc que les portes de leur atelier soient ouvertes. Et donc, elles obtiennent satisfaction dans cette espèce de petit conflit, mais complètement symbolique du début de la pièce. La deuxième scène, c'est une scène de dîner en famille. C'est à la fois la dénonciation de la violence du pouvoir de l'État contre tous ceux qui se rebellent, et aussi la dénonciation d'un patriarcat également violent qui sévit y compris dans les classes populaires et y compris dans la famille de Emma. Donc, dans la scène, la deuxième scène de la pièce, il y a un invité qui est l'invité du père de famille qui vient dîner et à un moment donné de la conversation, il rend compte de la pendaison de quatre des condamnés de Haymarket. Vous vous en souvenez, on en a parlé la semaine dernière, l'affaire de Haymarket Square à Chicago, c'est cette affaire de meeting pendant lequel, de meeting anarchiste, pendant lequel des policiers qui faisaient l'encadrement avaient été blessés et tués par une bombe qui avait explosé. Bon, on n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé, d'où venait la bombe, mais enfin, toujours est-il qu'il y avait eu, vous vous en souvenez, on l'a dit, 8 condamnés à mort. Et donc, ce soir-là, chez Emma, l'invité dit que 4 des condamnés ont été exécutés. Et à cette histoire, Emma réagit en éclatant en sanglots et elle est violemment prise à partie par à la fois son père et l'invité qui ne tolèrent pas, au fond, ces mesures, enfin, ces expressions de sympathie vis-à-vis des condamnés. Donc elle se rebelle à la fois contre son père et contre l'invité et là-dessus, elle décide de partir pour New York. Donc, cette scène de famille, c'est un petit peu la clé de la suite, puisque c'est la clé du départ de Emma qui quitte sa famille, qui quitte son mari. Ah oui, elle était aussi jeune mariée, juste à ce moment-là. Et elle va s'installer à New York avec d'autres camarades. Donc, ensuite, c'est la scène 3 qu'on va vous lire de façon un petit peu plus importante. En prenant la scène 3, on va aller donc à New York dans un bar. Au départ, l'atmosphère est assez festive. Il y a des camarades, des jeunes camarades de Emma qui sont là. Il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui discutent, il y a un piano, il y a de la musique. Donc, dans ce bar, Emma fait connaissance du groupe de jeunes militants avec qui, ensuite, elle va connaître bien des aventures. Donc, écoutons. Riez, riez, mais quand la révolution aura eu lieu, on aura plein de choses pour nous, on collectivisera cet endroit et on aura de la bière à volonté.
Donc c'est comme ça que les anarchistes de New York préparent la révolution.
On travaille dur toute la journée et le soir.
Oui, toute la journée à l'atelier, on dénonce les capitalistes. Et le soir, par exemple, au Saks Café, on se dénonce les uns les autres. Il y a les marxistes, les partisans de Bakounine, les partisans de Kropotkine... Enfin, bon.
Et vous ?
Moi, j'ai d'abord lu Marx, le manifeste. Ah, c'est si clair, c'est si grand. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Le système capitaliste a créé une richesse énorme, mais il l'a tirée de la misère des êtres humains. C'est un système malade. Comment résout-il le problème du chômage ? Par les guerres, et en préparant toujours d'autres guerres. Il doit laisser la place à une nouvelle société, où les gens partageront le travail et les richesses, pour vivre comme des êtres humains devraient vivre. Et puis j'ai lu Bakounine. Au début, je l'ai détesté pour ses attaques contre Marx, mais quand même, j'étais intriguée. La dictature du prolétariat, disait-il, c'est comme la dictature de la bourgeoisie. Elle ne va pas disparaître d'elle-même, parce qu'elle risque de devenir une tyrannie. Et il ne peut y avoir d'État vraiment ouvrier, donc l'État est un mal en soi. Finalement, nous ne devons avoir ni gouvernement, ni Dieu, ni maître.
Bakounine est un rêveur, un romantique. Marx est enraciné dans l'histoire, dans la réalité.
3 hurrahs pour Bakounine.
4 hurrahs pour Marx.
Bakounine.
Marx.
Kropotkin.
Engels.
Engels.
La Révolution.
Salut Sacha. Hey Sacha.
Et Sacha, salue notre nouvelle camarade de Rochester, Emma Goldman.
Johann Most intervient demain soir à l'Academy of Music. J'ai les tracts ici.
Johann Most, en personne?
Tu ne l'as jamais entendu parler?
Non, mais j'ai lu ses articles dans Freiheit.
Qui va tracter à Westside?
Sacha ne perd jamais une seconde. Ok, je fais Whiteside pendant ma pause de midi.
Ok, je fais Union Square, dès que j'ai fini de travailler. Et je vais t'aider, je te retrouve ici, à 6 heures.
J'ai une réunion d'atelier à l'heure du déjeuner. Je vais tracter en bas de Broome Street, avant de reprendre le travail.
Sacha, tu devras te lever avant 5 heures.
Et alors?
Alors rien. Après la Révolution, on érigera une statue au milieu de Broome Street. Sacha distribuant des tracts à l'aube.
Bon, moi j'ai une chambre tout près de Broome Street. Je t'aiderai.
À 5 heures du matin?
Bah oui, si tu y es, j'y serai.
Distribuer des tracts avec Sacha, c'est quelque chose. Cher ami, te rends-tu compte que Johann Most va parler ce soir? Voici les renseignements. Qui? Quoi? J'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps? Tu donnes 10 heures par jour aux capitalistes et tu ne peux pas accorder une heure de ton temps au mouvement qui va mettre fin à ton esclavage, honte à toi.
Et la suite. Un peu de sérieux maintenant.
Je suis sérieux.
Je pense qu'il n'est pas bon que Fedia et Anna tractent au même endroit. De même pour notre ami Goldman et moi. Nous gaspillons nos forces. Nous pouvons couvrir un territoire plus grand.
Mais non, ce n'est pas du gaspillage. Si un policier passe par là au moment où nous distribuons, il lui sera plus facile d'en arrêter. Non, il lui sera plus difficile d'en arrêter deux qu'un seul.
Elle a raison.
En outre, ça fait mieux d'être deux. Ça montre qu'on appartient à une organisation.
Elle a raison.
Ouais, bon, alors Emma a raison et Emma continue le combat. Emma, tu vois Sacha, je te retrouve à 5 heures à Broome Street, à l'arrêt du tramway. Et elle tend une main à Sacha, que Sacha prend, en effet, en regardant Emma avec curiosité. Alors, il se serre la main, et sur la scène suivante, qui est la scène 4, c'est le meeting de Johann Most. Donc, ce meeting, comme tous ceux qui se passent à cette époque-là, il est dans une salle, oui, mais il est dans une salle où la moitié de l'assistance, c'est la police. Parce que la police surveille tous les rassemblements. Donc, il y a des policiers postés sur les côtés de la scène, il y a des policiers postés dans l'ombre tout le tour de la salle. Et quand Johann Most fait son discours, eh bien, il va aussi nous parler de la police. Camarades, mes amis et messieurs de la police de New York. Ah ben oui, je vois là l'inspecteur Sullivan au 4e rang. Il va bientôt prendre des notes. S'il vous plaît, inspecteur, écrivez correctement mon nom. Ne faites pas de faute, hein. C'est Johann Most. Voilà. Alors, mes amis et moi-même, nous sommes ici réunis pour une réunion pacifique. Il y a des femmes et des enfants dans la salle. Et pourtant, tout autour, il y a aussi ces policiers, Monsieur Sullivan, ces policiers qui portent des matraques et qui sont armés de fusils et qui sont alignés le long des murs. Ça doit être ce qu'on entend par liberté d'expression en Amérique. Alors, messieurs les policiers, pourquoi êtes-vous là? Peut-être avez-vous entendu dire qu'il s'agissait d'un meeting anarchiste. Eh oui, nous sommes des anarchistes. Peut-être avez-vous entendu dire que nous étions adeptes du désordre. Mais non, c'est faux, nous croyons dans l'ordre. Pas un ordre artificiel imposé par la matraque et le fusil, pas l'ordre des tribunaux et des prisons, mais un ordre naturel dans lequel les êtres humains vivent et travaillent ensemble et égaux, en harmonie. Qui raconte que nous croyons au chaos et au désordre? Les capitalistes et les faiseurs de guerre, les promoteurs du chaos économique, les architectes eux-mêmes du désordre mondial. Laissez-moi vous expliquer, inspecteur Sullivan, et vous tous, membres des forces de l'ordre, comment nous sommes devenus des anarchistes. D'abord, nous avons regardé nos propres vies. Nous avons découvert que nous vivions sous le régime de lois que nous n'avions pas conçues, d'une manière que nous ne voulions pas, que nous étions dépossédés de nos vies et de nos désirs les plus profonds. Et puis, nous avons vu autre chose. Nous avons vu que dans cette ville, 700 bâtiments sont la propriété d'une seule famille, les Astors, dont la fortune s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars. Nous avons vu que Jay Gould possède aussi des milliers ou des centaines d'hectares au bord de l'Hudson et un hôtel particulier sur la 5e avenue, et que Rockefeller a mis la main sur le pétrole de toute la nation. Nous avons vu que les riches vivent de la richesse produite par des générations de travailleurs. Et nous avons compris que ces mêmes hommes qui possèdent l'industrie américaine sont ceux qui choisissent les présidents et les membres du Congrès, ceux qui nomment les juges, ceux qui sacrent les prêtres, ceux qui éditent les journaux, ceux qui font fonctionner les universités. Chaque année, 35 000 ouvriers meurent dans leurs mines et leurs usines. À chaque génération, les fils des ouvriers sont massacrés dans leur guerre et ils nous accusent d'être violents. Que les choses soient claires. La violence contre les innocents, jamais. La violence contre l'oppresseur, oui, maintenant et toujours. Alors oui, prenez des notes, inspecteur Sullivan. Nous nous attendons à entendre parler de vous. Vous pouvez vous attendre à entendre parler de nous. Nous aussi, nous prenons des notes. Et un jour, nous aurons vraiment la parole.
Quel meeting ?
Alors, il est comme ça, Johann Most ? Je comprends maintenant pourquoi il passe son temps à entrer et sortir de prison.
Eh oui, entrer et sortir de prison, c'est vraiment le destin de beaucoup d'anarchistes qui, à cette époque-là, sont poursuivis sans arrêt par la police. Et encore, quand il ne s'agit que d'être poursuivi, tout va bien. C'est donc Françoise et Nadine qui vont continuer le dialogue entre Sacha, notre militant distributeur de tracts, et Emma.
Comment es-tu devenue telle que tu es, Sacha ?
Tu veux dire intraitable ?
Oui, non. Je veux dire tes idées, nos idées. Ils m'ont dit que tu organisais les ouvriers du cigare.
Dans le pays d'où je viens, j'ai été renvoyée de l'école à l'âge de 13 ans pour avoir écrit un essai, une rédaction.
Pour une rédaction ?
On a jugé le titre quelque peu indélicat. Dieu n'existe pas.
Moi, à l'âge de 13 ans, je travaillais déjà dans une usine à Saint-Pétersbourg. Je ne connaissais pas les mots de capitalisme, ni d'antisémitisme ou d'État. Mais c'était pourtant clair pour moi. Qui a besoin de mots quand il sent la chose dans sa chair ?
Tu as cru que ça serait différent en Amérique ?
Dans l'usine de Rochester, je ne voyais pas de différence. Oui, les États-Unis ont une constitution, mais ça n'a aucun sens dans une usine.
Et ça n'a pas non plus plus de sens pour les condamnés de Haymarket.
Haymarket a ouvert les yeux de beaucoup d'entre nous.
Je n'oublierai jamais les derniers mots de Spice au jury. Ce sont mes idées, elles font partie intégrante de moi, et je ne peux y renoncer, même si je le voulais. Si la mort est le prix à payer pour avoir dit la vérité, Alors faites venir votre bourreau.
J'espère que j'aurai le même courage quand ce sera mon tour. Tu fais quoi demain ? Je dois aller à la consigne de la gare centrale. J'y ai laissé ma machine à coudre.
Tu l'as emportée avec toi depuis Rochester ?
Oui, j'en ai marre de travailler dans des usines de corsets. J'aimerais travailler pour moi-même. Peut-être créer un atelier coopératif, comme Vera dans What is to be done.
Oui, Vera dans What is to be done, c'est Vera Chernyshevsky qui a écrit ce livre aux États-Unis, un petit peu comme Lénine en 1902 avait écrit Que faire. Donc, c'est cette relation qui se construit entre Sacha, Emma, Fedia, Anna. Et en fait, ces camarades, ils vont décider de vivre jusqu'au bout leur engagement. Ils vont en particulier s'installer dans un appartement en commun. Bien sûr, à New York, déjà, les appartements sont chers. Et en partageant un appartement un petit peu plus grand, bah, ça revient beaucoup moins cher que d'avoir chacun un petit appartement. Donc tous les quatre, ils s'installent dans un appartement collectif. Et dans un appartement collectif, ils vont presque en permanence être en train de discuter de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il faut faire. Et il y a même des moments un petit peu rigolos où ils s'aperçoivent qu'en vivant à quatre dans un appartement collectif, ils n'ont pas justement les mêmes besoins et ils ne vivent pas de la même façon.
À chacun selon ses besoins. Sacha a besoin de manger comme un cheval. Fedia a besoin de se lever tard. J'ai besoin de lire sans que personne ne me parle. Et Anna a besoin de passer tous les matins environ une heure dans la salle de bain.
Un groupe parfait. Personne ne gênera personne. Fedia dormira, Sacha mangera, Emma lira. Et moi, je serai dans la salle de bain. Et toutes les heures, on pourra échanger nos places.
Voilà, donc un peu en mode humoristique, en effet. La mise en place de ce groupe d'agitateurs, d'activistes, mais qui a aussi des moments de sérénité ou des moments de tranquillité dans leur appartement collectif, puisque en particulier, ils continuent à lire, ils continuent à dessiner, ils continuent, puisque Fedia est artiste, à produire des œuvres. Ils continuent, bien sûr, à enrichir leurs connaissances de tous les théoriciens de l'anticapitalisme. On a vu tout à l'heure qu'ils connaissent bien Marx, Bakounine, Engels, et ils vont, pendant leur vie collective, continuer à lire et continuer à enrichir leurs réflexions en discutant entre eux. Il n'empêche que ils ont aussi des moments plus calmes, comme on le disait. Et par exemple, dans la scène 7, Emma raconte ses souvenirs d'enfance à Fedia. Elle raconte comment ça se passait quand elle était petite en Russie. Elle raconte comment ça s'est passé quand elle est arrivée avec ses parents aux États-Unis. Et Toutes ces petites scènes intercalaires, on pourrait dire, que Howard Zinn a écrites, sont là pour montrer que nos agitateurs et nos activistes anarchistes, bah, ce sont aussi des humains ou des humaines comme les autres, et ils savent aussi profiter de la vie à des moments où ça se présente. Alors, avant de revenir à des scènes un petit peu plus agitées, justement, on va vous passer, comme on l'avait fait la semaine dernière, une chanson de Woody Guthrie. Et la chanson de Woody Guthrie qu'on vous passe, ben, elle rappelle un petit peu la première scène à laquelle on avait fait allusion tout à l'heure. C'est une chanson qui rappelle le massacre, peut-on dire, d'innocents en 1913. Lorsque, lors d'une fête, là encore, les portes de secours sont fermées de l'extérieur par des anti-militants, par des jaunes payés par les patrons. Et alors qu'il y a une fête dans une salle, on va affoler les personnes présentes en criant au feu, on va fermer les portes d'évacuation et en fait les gens meurent d'essayer de se précipiter et de se sauver de cette salle. Donc Woody Guthrie rappelle cette histoire dans 1913, le massacre, 1913.
Take a trip with me in 1913 to Calumet, Michigan, in the copper country. I'll take you to a place called Italian Hall, where the strikers are having their big Christmas ball. I'll take you in the door and up a high stairs. Singing and dancing is heard everywhere. I'll let you shake hands with the people you see and watch see kids dance round the big Christmas tree. You ask about work and you ask about pay. They'll tell you they make less than $1 a day, working their copper holes, risking their lives. So it's fun to spend Christmas with children and wives. There's talking and laughing and songs in the air, and the spirit of Christmas is there everywhere. Before you know it, you're friends with us all. Sits down by the Christmas tree lights to play the piano, so you gotta keep quiet. To hear all this fun, you would not be alive. The copper bows thug men are a million outside. Well, the copper bows thugs stuck their heads in the floor. One of them yelled and he screamed, there's a fire. A lady, she hollered, there's no such a thing. Keep on with your party, there's no such a thing. Well, a few people rushed, it was only a few. It's just the thugs and the scabs fooling you. And a man grabbed his daughter and he carried her down. And the scabs held the door and he could not get out. And then others followed, 100 or more. But most everybody remained on the floor. The gun thugs, they laughed at their murderous joke. Children were smothered on the stairs by the door. Such a terrible sight I never did see. We carried our children back up to their tree. The scabs outside still laughed at their spree. And the children that died, there were 70. Well, the piano played a slow funeral tune. The town was lit up by a cold Christmas moon. And the parents, they cried, and the miners, they moaned. See what your grief for money has.
Merci Woody Guthrie, donc, et toujours sa guitare et ses chansons engagées. On continue avec Emma Goldman, la prise de conscience des travailleurs de New York, comme il y avait eu celle des travailleurs de Chicago. Et on continue en effet avec le récit d'une grève chez Cargman, où il y a à la fois les grévistes qui sont là, qui ont fait un piquet, et puis Cargman, comme d'autres patrons américains de l'époque, embauche des jaunes. Et on entendra tout à l'heure qu'il y a des sociétés privées spécialisées dans le fait de fournir des, entre guillemets, jaunes. Et il y a eu en particulier une entreprise spécialisée qui s'appelait Pinkerton. Donc, on parlait de Pinkerton et des Pinkertons, qui étaient donc les embauchés jaunes pour aller briser les grèves. Mais ceux qui brisaient les grèves, ils se limitaient pas à briser la grève en tant que telle. Ils y allaient avec des matraques, avec des fusils, et très souvent, ils agressaient directement les travailleurs en grève. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là. On en est simplement à l'exposition de ce qui se passe à la grève chez Cargman, à laquelle assistent les camarades de Emma.
Tous en grève, débrayez, ne travaillez plus pour Cargman, débrayez. Tous en grève, débrayez.
En grève.
Ne travaillez plus pour Cargman, débrayez.
En grève.
Des jaunes ? Ils font venir des jaunes.
Oui, ils font venir des jaunes. Alors, les grévistes se rassemblent devant l'entrée du magasin et les jaunes qui sont arrivés s'arrêtent devant le piquet. C'est Emma qui parle. Regardez-les, ces pauvres femmes. Elles débarquent à peine du bateau. Regardez leur visage. Elles sont affamées, exactement comme nous l'étions aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où en sommes-nous?
Dégage de là, sinon je te casse la tête.
Donc Emma repousse le leader des jaunes. Continuons d'avancer, camarades. Avançons. Quelqu'un pose une caisse devant elle et elle monte sur la caisse. Je sais, camarades, que vous avez besoin de travailler. Vos familles sont affamées. Mais nous aussi, les nôtres aussi. Wie unsere? Vos maisons sont froides, vos maisons ne sont pas chauffées. Wie unsere? Les nôtres non plus. Cargman vous a promis de bons salaires, mais laissez-moi vous dire une chose, frères, sœurs, nous connaissons bien Cargman. Bruder, Schwester, Cargman est un menteur. Mais ça, vous le savez déjà, puisqu'il ne vous a pas dit qu'en venant briser une grève ici, vous nous trouveriez en face de lui. Il nous trompe, il vous trompe. C'est votre ennemi, c'est notre ennemi. Il va vous payer de bons salaires, oui, jusqu'à la fin de la grève, mais que va-t-il se passer ensuite? Il réduira tous les salaires, comme il a déjà réduit les nôtres. Et vous vous mettrez en grève, exactement comme nous, et les policiers viendront pour vous briser les os à coups de matraque, exactement comme ils l'ont déjà fait, exactement comme d'autres briseurs de grève l'ont déjà fait. Cargman trouvera toujours d'autres personnes pour nous remplacer, pour vous remplacer. » Un policier s'approche d'elle. « Frères, sœurs, ne les écoutez pas. Bruder, Schwester. »
Il commence à les faire avancer. Emma parle...
Non, les jaunes semblent hésiter. Et donc, Emma reprend la parole avec beaucoup de force. « Schwester, Bruder, frères, sœurs, si vous essayez d'entrer, ce sera la bagarre. Nous ne devons pas nous battre les uns contre les autres. Ensemble, nous pouvons améliorer nos vies. Écoutez, nous ne sommes pas seuls. Dans tout le pays, d'autres ouvriers se rassemblent. En Pennsylvanie, actuellement, 3000 ouvriers ont dit « assez » à l'homme le plus riche d'Amérique, Andrew Carnegie. « Assez de travailler 12 heures par jour dans les hauts fourneaux. Assez d'y brûler comme un enfer. Assez de gagner 14 cents de l'heure. » Assez. 3000 ouvriers, ceux de chez Carnegie, restent unis. Ils refusent de se trahir les uns les autres. Restons unis. Venez nous rejoindre, mes frères, mes sœurs, Schwester, Bruder. Ne travaillez pas pour Cargman.
Les jaunes semblent pétrifiés par ces paroles. L'homme élégant leur crie : Rentrez, rentrez tous, rentrez. mais il ne bouge pas. Puis l'un des jeunes, une femme, un châle sur la tête, s'avance vers Emma en pleurant. Elle lui tend les mains qu'Emma saisit. Le piquet de grève continue de scander.
En grève, en grève, grève, ne en travaillez grève. Pas pour Cargman. En grève, en grève.
Donc voilà, Emma a réussi à stopper les jaunes, entre guillemets, à faire que les jaunes fraternisent en fait avec les grévistes de Cargman. Et évidemment, c'est un épisode très important de l'histoire d'Emma, c'est un épisode important de la pièce. On va continuer, puisque en fait, dans la scène qu'on vient de lire, on a parlé de Carnegie, le fameux, le patron métallurgiste, et on va continuer à parler de Carnegie dans la scène qui suit, puisque Sacha revient, il va à nouveau être là aux côtés de Emma. Et Sacha et Emma, avec d'autres camarades, réfléchissent à ce qui pourrait être fait contre Carnegie. Ah, quelle grève chez Cargman aujourd'hui!
Anna m'a raconté. Tu as fait ton premier discours. Elle m'a dit que c'était bon. Tu es restée en dehors toute la soirée.
Ah oui, 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 je suis allée... Ah oui, je suis sortie. Mais, et toi, mon chéri, qu'est-ce que tu fabriques si tard?
Un tract sur la grève de Pittsburgh. Tu as écouté les dernières nouvelles?
Ouais, Carnegie a nommé Frick. Tu le connais?
Henry Clay Frick? Un amoureux des arts, un bandit, et Frick a fait venir les Pinkertons. Tu les connais? La plus grande agence de briseurs de grève d'Amérique. 2000 hommes équipés des armes les plus modernes.
Une armée privée, quoi!
Et Frick va l'utiliser pour briser la grève. Les grévistes vont avoir besoin d'argent, d'armes et de soutien de tout le pays. Sans ça, ils sont morts. Je dois finir ce tract cette nuit.
Eh ben moi, j'ai passé la soirée au Metropolitan. Figure-toi que Johann Most m'a invité. Il y avait Carmen.
Johann qui?
Ben Johann Most.
Alors maintenant, c'est Johann, l'opéra. C'est pour aller à l'opéra que Most utilise l'argent du mouvement. Mais l'opéra a dû finir voilà des heures.
Oui, oui, mais Most est un homme formidable. Tu sais, on a parlé longtemps. D'ailleurs, tu me l'as dit toi-même. Il a quitté son siège du Reichstag. Il est devenu anarchiste. Il est venu aux États-Unis. Il a passé des années en prison. Il a risqué sa vie. Alors, oui, j'ai passé la soirée avec lui, mais il faut bien aussi parler. Et toi, tu fais quoi pour les familles de Pittsburgh? Tu écris un tract?
Oui, nous avons besoin d'écrire des tracts.
Oui, bon, d'accord, évidemment. Il faut les soutenir, mais il faudrait faire plus que ça.
Je suis prêt à faire plus que ça.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je suis prêt à faire plus que ça.
Nous verrons. Bon, et arrive Fédia. Alors, Fédia arrive et on continue à discuter de ce qui va se passer pour riposter contre les patrons à Pittsburgh.
J'irai me coucher quand j'en aurai envie. Vous avez entendu à propos de Pittsburgh?
Ouais, Sacha m'a raconté. Ils ont fait appel à la milice Pinkerton.
Eh bien, ça a commencé. Il y a eu des affrontements aujourd'hui.
Aujourd'hui?
Frick a fait descendre la rivière à 300 Pinkerton sur une péniche. Une véritable armée. Des mitrailleuses et des fusils. Ils ont ouvert le feu sur les hommes, les femmes, les enfants. Il y a eu 7 morts.
On doit montrer au monde entier que les Carnegie, les Rockefeller et les Frick ne sont pas invincibles. Nous voyons leur vie s'afficher dans les journaux, l'arrogance sur leur visage et dans leurs yeux le dédain pour tous ceux qui n'ont pas réussi à devenir riches en jouant à leur jeu. Toutes ces scènes, Frick allant à l'église, Frick à la Maison Blanche avec le président pendant que ses ouvriers s'épuisent dans les usines, Frick buvant du whisky dans son country club pendant que ses détectives abattent des femmes et des enfants. Frick, Frick, oui, quelque chose doit être fait à Pittsburgh.
Alors, de quoi tu parles exactement?
Frick doit mourir.
Mais parle plus bas, mais tu es fou.
Il a dit quoi, Most? Il y a dans l'histoire des moments où une seule balle part plus fort que 1000 proclamations. Je vais partir à Pittsburgh.
Bon, bah dans ce cas-là, nous partons tous. C'est le moment. Depuis des siècles, ils écrasent les classes laborieuses. Ils ne sont jamais punis. Et aujourd'hui encore, c'est affreux ce qui s'est passé. Mais cette fois, il faut que ce soit différent. Nous devons leur montrer qu'eux aussi peuvent mourir. Oui, en fait, c'est ça. À nous quatre, nous avons des choses à faire. Nous pouvons le faire.
Celui qui tue Frick renonce à vivre.
Tu es Frick? Nous avons dit que nous serions prêts, oui, souviens-toi, tous les quatre. Nous avons dit que nous serions prêts à quatre. Alors, nous y allons ensemble.
Je le ferai seul.
Seul?
Si Frick est tué, quelqu'un doit expliquer. Quelqu'un doit savoir pourquoi on l'a fait et l'expliquer. Sinon, ils vont dire, comme ils le disent toujours, que c'est l'œuvre d'un fou. Emma peut l'expliquer. Elle a une langue pour ça. Elle a un don. Elle peut le faire. Chacun de vous doit rester en arrière et faire comprendre notre action par tout le pays, par le monde entier.
Oui, mais parle plus bas.
Tu sais que j'ai raison. Tu sais que c'est nécessaire. Le moment est venu que quelqu'un agisse, montre la cible et dise « ça suffit ». Tu le sais, ça.
Ouais, ouais. Bon, alors... il nous faut de l'argent. Il nous faut de l'argent pour un billet de train. Il nous faut de l'argent pour un moyen de tuer. Et tu auras besoin d'un nouveau costume. Oui, d'un nouveau costume.
Alors, asseyons-nous et réfléchissons à un plan.
Voilà, donc c'est le montage, la préparation de l'assassinat de Frick pour lequel Sacha s'est donc porté volontaire. Nous allons laisser les quatre camarades s'organiser. Ils préparent ce voyage, ils préparent l'attentat de Sacha que, effectivement, il va aller commettre seul. Et nous avons une toute petite scène dans le bureau de Frick.
Je suis désolée, Monsieur Frick ne peut vous recevoir. Que faites-vous ?
Frick ? Frick se lève, Sacha fait feu, le manque, c'est le chaos. Deux hommes qui ont surgi dans le bureau se saisissent de Sacha. Il s'échappe, s'avance vers Frick avec un couteau, le poignarde, puis il est jeté à terre et plaqué au sol. Mes lunettes, où sont mes lunettes? Je ne vois rien, je ne vois rien.
Voilà, donc Sacha tire sur Frick, le manque, puis le blesse d'un coup de couteau. Et bien sûr, il est arrêté. Il est arrêté, mis en prison et il passe en jugement.
Alexander Bergman, pour la tentative de meurtre sur la personne de Henri Clay Frick, vous êtes condamné à une peine de 22 ans au pénitencier d'État de Pennsylvanie occidentale.
C'est la condamnation de Sacha. Sacha, c'était donc, on l'a vu la semaine dernière, le petit nom de Alexander Bergman. Donc, Sacha est condamné à 22 ans de prison. Et ensuite, on retrouve dans la pièce un certain nombre de nos protagonistes qui voyagent, qui continuent à, on pourrait dire, répandre la bonne parole. Et Emma va brièvement aller à Chicago, à nouveau rencontrer Most. Et Most, bien sûr, comme Emma de son côté, vont continuer leur discours, vont continuer à retrouver des camarades pour de nouveau les mobiliser, pour de nouveau leur démontrer que le système est mauvais et qu'il faut se révolter, même si la police, très souvent, est là. On l'a vu, Emma va à Chicago plusieurs fois. Elle se rend aussi dans l'ouest des États-Unis. Elle se rend en particulier à San Francisco et à Los Angeles, où elle va rencontrer un autre anarchiste relativement important, Redman, Ben Redman. Et donc, Parmi tous ses voyages, elle revient à Chicago parce que Redman lui-même est revenu s'installer à Chicago. Et on va nous présenter brièvement la rencontre de Redman et de Emma, la façon dont ils font connaissance et la façon dont, à nouveau, ils décident d'être actifs ensemble.
Miss Emma Goldman ?
Oui ?
Bienvenue à Chicago. C'est un honneur, vraiment, Miss Goldman. Je suis le docteur Ben Redman.
Et vous m'amenez à la bourse du travail ?
Non. Le chef de la police l'a fermée en prévision de votre venue.
Ah, pas étonnant.
Aussi, on m'a demandé ce matin si je voulais bien prêter mon quartier général pour votre conférence.
Votre quartier général ?
Oui. On l'appelle Hobo Hall, la maison des vagabonds.
Oui, vous savez, là, ces fameux hobos dont on a déjà parlé la semaine dernière. En effet, les vagabonds, c'est-à-dire les travailleurs précaires qui vont travailler de ville en ville, là où il y a du travail. Emma reprend la parole. On m'a dit que vous étiez médecin.
Et je le suis tout à fait. Mais je ne travaille qu'avec les exclus. J'ai monté un dispensaire où ils peuvent venir. Mes gens sont d'ailleurs en train d'y installer 250 chaises. Et je vous assure que ce ne sera pas de trop. J'ai passé la plus grande partie de la journée avec eux à coller des affiches dans toute la ville.
Ah, je suis sûre que vous êtes un des leurs, en effet. Vos gens, des vagabonds, des clochards, des macros, des prostituées, des petits voyous. Mais vous vous donnez là une vraie leçon. C'est une vraie leçon donnée aux anarchistes. Alors, comment ces gens sont-ils devenus vos gens ?
Je suis un des leurs. Je vivais déjà seule à l'âge de 11 ans et j'ai plutôt bourlingué. J'ai été manœuvre au Mexique, j'ai vécu le tremblement de terre à San Francisco, je suis allée en Europe sur un tramp steamer.
Oui, les tramp steamers, c'est-à-dire les bateaux qui prennent des chargements au fur et à mesure qu'ils en trouvent. C'est un peu comme les hobos sur les chemins. Alors, les autorités de l'école ont dû s'offusquer. Vous n'étiez pas fait pour devenir médecin.
On m'a attribué une bourse d'études.
Et c'est comme ça que vous êtes devenu médecin, finalement.
Oui, mais je refuse de vendre mon savoir pour de l'argent. Je l'offre aux gens qui ont besoin d'être soignés et ils me donnent en retour ce dont j'ai besoin pour vivre.
Oui, ça fait un peu penser à Céline, à Clichy ou à Beson. Hein. Redman, c'est un peu Louis-Ferdinand Céline. Je sais pas, j'espère qu'il tournera moins mal après. Alors, qu'est-ce qu'il vous donne ? De l'affection ? De la dévotion ?
Vous me comprenez et je vous comprends. Absolument. C'est pourquoi je suis ravie de pouvoir vous venir en aide pour la conférence de ce soir.
Eh oui, mais il se pourrait bien que la police ferme vos locaux.
Je le sais parfaitement. Croyez-vous que je n'ai jamais moi-même été arrêtée ? Pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs. À l'occasion de la marche pour les chômeurs, ici même, à Chicago, j'ai été molestée au commissariat central.
Et pourtant ?
Les policiers ne sont pas très différents des prostituées et des voleurs à qui j'ai affaire chaque jour. Des déshérités qui commettent des actes de désespoir.
Ouais, il y a du vrai dans ce que vous dites, mais aussi beaucoup d'angélisme.
Je crois que je peux me faire un ami de n'importe quel être humain.
Vous avez vraiment confiance en vous.
Je sais ce que je peux, exactement comme vous savez de quoi vous êtes capable.
Ah, vous ne me connaissez pas.
Je connais vos idées. Je sais que vous pensez ce que vous pensez du gouvernement, des prisons, des hommes et des femmes.
On va essayer. Hein, on va essayer de faire des choses ensemble. Et on y va, là. On entre dans la salle.
Mes amis, voici une femme que nous avons tous tant espéré pouvoir entendre. La grande prêtresse américaine de l'anarchisme, Miss Emma Goldman.
Voilà, je suis là, je suis à Chicago, parmi vous. Je suis heureuse de voir plusieurs femmes dans l'assistance. Car ce soir, je suis venue vous parler de la tragédie de l'émancipation des femmes. Pourquoi est-ce que c'est une tragédie ? Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant d'émancipation, mais que c'est encore une illusion? C'est l'idée que la femme sera émancipée par le vote. Le vote a-t-il jamais émancipé l'homme? C'est l'idée que la femme sera émancipée quand elle quittera son foyer pour aller travailler. Mais le travail a-t-il jamais émancipé l'homme? Donc la femme, tragiquement émancipée, mais non, c'est une rigolade. Elle a peur, oui, elle a peur, elle continue à avoir peur, mais elle n'aura plus peur des hommes lorsqu'elle comprendra que sa liberté viendra d'elle et d'elle seule. Elle doit dire « je suis quelqu'un », pas quelque chose. Elle doit dire « je refuse à quiconque tout droit sur mon corps. J'aurai des enfants ou je n'en aurai pas, selon mon bon plaisir, selon ma volonté. Je ne serai la servante ni de Dieu, ni de l'État, ni d'un mari. » Je me construirai une vie plus facile, peut-être pas, mais plus profonde, plus riche. Je suis une femme, je mets le feu à la liberté. Et cette liberté, elle illuminera le monde entier, pour toutes et pour tous. Et elle retrouve Rettmann. Oui, on peut l'applaudir.
Je viens souvent ici, c'est un endroit tranquille.
Oh oui, mais je ne peux plus rien avaler après une conférence. Un peu de vin, peut-être ?
Garçon, une bouteille de Bordeaux. Votre conférence était magnifique.
Ah, et vous, vous êtes un très bon organisateur. La salle était comble, malgré la police, et la police a dû repartir, comme ils étaient arrivés. Il ne s'est rien passé, finalement. Voilà. Alors, continuons. Et en effet, Emma et Ben Rettmann, tandis que Sacha est toujours en prison, Emma et Ben Rettmann continuent les tournées de conférences aux États-Unis, continuent à animer des meetings, à présenter aux travailleurs les idées de l'anarchisme et plus tard du communisme.
Miss Goldman et moi-même vous remercions pour l'hospitalité dont vous nous avez gratifié ici à Détroit. Et maintenant, elle est prête à répondre à vos questions. La charmante dame en bleu voudrait savoir... Est-il vrai que vous croyez à l'amour libre ?
L'amour libre, bien sûr. L'amour ne peut-il exister que lorsqu'il est libre ? C'est bien ce que je pense. Qu'y a-t-il de plus révoltant qu'une femme en bonne santé, pleine de vie, de passion, mais qui doive refouler ses besoins naturels, refouler ses désirs les plus vifs, brider son cœur, laisser dépérir son imagination, se priver du sexe, jusqu'à ce que, soi-disant, un honnête homme vienne se l'approprier dans le mariage. L'amour, oui, bien sûr, l'amour est libre. L'amour, cet élément le plus vigoureux et le plus intense de toute la vie. L'amour, ce précurseur de l'espoir, de la joie. L'amour qui défie toutes les lois et toutes les conventions. Comment une pareille force absolument irrésistible pourrait-elle être synonyme de ce pitoyable produit de l'Église et de l'État qu'est le mariage.
Miss Goldman, êtes-vous contre le mariage ?
Je suis contre toute institution qui fait appel à la soumission. Je suis contre la soumission. Alors, voyage, et...
Chers amis de Los Angeles, le sujet traité ce soir par Miss Emma Goldman est le patriotisme.
Frères et sœurs, qu'est-ce que le patriotisme ? Ceux qui ont la chance d'être nés dans un endroit particulier se considèrent comme meilleurs et plus nobles que ceux qui habitent partout ailleurs. Par conséquent, il est du devoir de ceux qui vivent à un endroit donné de combattre, tuer et mourir pour imposer leur supériorité à tous les autres. Non mais... Alors, le patriotisme nourrit la guerre. Et la guerre est une querelle entre deux voleurs trop lâches pour se battre avec leurs propres armes. En conséquence, ils prennent les gars d'un village et les gars d'un autre village, ils les fourrent dans des uniformes, ils les équipent de canons et ils les poussent à s'entretuer comme des bêtes sauvages. Écoutez ce que disait Tolstoï. Libérez-vous de l'idée de patriotisme et d'obéissance au gouvernement. Faites vôtre résolument les perspectives offertes par cette idée plus haute, l'union fraternelle de tous les peuples. Alors, merci Tolstoï, merci Emma Goldman, merci Howard Zinn. On va non pas les quitter comme ça, parce que ça serait un peu triste. On va rappeler que Emma Goldman, là, on est en 1920, va continuer sa lutte, en effet, en 1917, contre la guerre dans laquelle, quand même, les États-Unis s'engagent. Elle va s'engager, en effet, dans des meetings où beaucoup d'anarchistes seront emprisonnés, enfin, à partir desquels les anarchistes sont emprisonnés, parce qu'ils sont contre la guerre. Mais elle continue, ses camarades et elle continuent la lutte. Et bien sûr, dans cette lutte, il va y avoir d'autres victimes, d'autres personnes dont on ne sait jamais trop finalement ce qu'ils ont fait ou pas. C'est le cas de Sacco et Vanzetti, c'est le cas de ces anarchistes dont John Baez a raconté l'histoire. Et nous allons terminer pour aujourd'hui avec l'histoire, la ballade de Sacco et Vanzetti. Vous vous souvenez ? Et on va écouter John Baez et se retrouver bientôt dans les luttes. Au revoir.